Il est 11h30, Info Mag, Jean-François Baudin.
Saint-Sylvestre sous couvre-feu à Nouméa et le Grand Nouméa, le haut-commissaire a signé un arrêté en raison du contexte actuel. Mathias Oineux est le nouveau président de la province des îles Loyauté. Seul candidat en lice, il a été élu ce matin et succède à Jacques Lallier. Les membres du futur gouvernement seront élus le 7 janvier. Le processus de renouvellement du gouvernement se fait en plusieurs étapes. L'agence rurale suspend ses aides à l'agriculture et à la pêche à partir du 1er janvier. Les taxes affectées n'ont pas été versées et l'agence manque de visibilité pour voter son budget primitif. En métropole, Gérald Darmanin occupe toujours le terrain. Le ministre de la Justice dévoile ses intentions et fait déjà plusieurs propositions. Et puis de la voile dans la page au sport, la Sydney Hobart doublement endeuillée. Deux marins sur deux bateaux différents ont perdu la vie à quelques heures d'intervalle après avoir violemment été heurtés par la baume de leur voilier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Cette année, la soirée de la Saint-Sylvestre se fera donc sous couvre-feu dans les communes de Nouméa et de l'agglomération. Le haut-commissaire a en effet signé un arrêté dans lequel il annonce qu'un couvre-feu sera en vigueur dans la nuit du 31 au 1er janvier et du 1er au 2 janvier de 1h du matin à 6h du matin. Cela ne concerne donc que les communes de Nouméa, de Dumbéa, du Mont-d'Or et de Païta. Il s'agit, explique le haut-commissaire, d'observer une vigilance particulière en raison du contexte que connaît le territoire depuis plusieurs mois et du bilan de l'insécurité routière ces dernières semaines. Tout contrevenant à ce couvre-feu devra payer 16 000 francs d'amende. Mathias Oineux a été élu président de la province des îles. Il était seul candidat en lice ce matin lors de la séance qui avait pour objectif de renouveler le bureau de l'Assemblée. On se souvient que Jacques Lallier avait été condamné à une peine d'inéligibilité de 2 ans, Nicolas Legrand.
Oui, l'élu UC était donc le seul à se présenter ce matin. Tout avait été en fait calé définitivement quelques minutes seulement avant l'ouverture de la séance publique. 13 voix sur 14 se sont donc portées sur la candidature de Mathias Oineux. Une satisfaction pour le nouveau président de la province des îles, écoutez.
C'est une satisfaction parce que rien n'a été plié jusqu'à ce matin. On s'est vu ce matin, on s'était vu avec tous les groupes et nous on a passé des choses avec les camarades du Palika, c'est le partenaire habituel. Après on va se réunir là, cet après-midi avec les camarades pour qu'on puisse fixer vraiment la ligne de conduite du groupe à prendre. On va prioriser les urgences, c'est un peu ce que j'avais dit, hein, et puis d'essayer de remettre sur les rails, parce que là on est sur un déficit, hein. Donc on va travailler sur la DOB et puis faire des priorités, et puis faire en sorte que l'objectif de des 8 mois, là, c'est au moins d'assainir les comptes publics de la province. Ça c'est une priorité, mais en même temps avec tous les dettes que porte la santé et l'enseignement.
Oui, Mathias Oineux, on s'en souvient, avait mené la fronde contre Jacques Lallier lors de l'examen du précédent budget. Pour autant, il dit poursuivre le travail entamé par son prédécesseur, même s'il critique la gouvernance que Jacques Lallier avait mise en place.
On sera dans les mêmes thématiques, hein, sur les piliers que l'ancien président avait posés, mais on va prioriser les choses. Et puis on va remettre l'animation par rapport aux sujets qui sont transversaux, par rapport à l'animation des présidences de commission. La gouvernance, elle va changer. Elle va changer, on ne va plus opérer à la verticale. Hein. On va opérer avec une grande transparence possible par rapport aux sujets qui sont transversaux.
Et lors de la séance de ce matin, les élus ont également procédé au vote des vice-présidents. Neko Nepeun, qui a fait dernièrement son retour à l'Assemblée de la province des îles, est élu premier vice-président, poste qui revient donc à l'UC. Le Palika prend la deuxième vice-présidence avec Wally Waitcha. Charlie Wenné du groupe UC est le troisième vice-président. C'est donc l'ensemble de l'exécutif qui a été renouvelé. La prochaine séance publique aura lieu le 8 janvier. Il s'agira de désigner les représentants des commissions extérieures. Viendra ensuite le débat d'orientation budgétaire et le budget primitif, lui, est prévu pour le 30 janvier.
Et toujours dans l'actualité institutionnelle, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est démissionnaire de plein droit depuis le 24 décembre. On connaît le détail du processus pour désigner le 18e gouvernement. La loi organique prévoit que le Congrès doit procéder à l'élection d'un nouveau gouvernement dans un délai de 15 jours, c'est-à-dire au plus tard le mercredi 8 janvier 2025. Réuni hier soir, le bureau du Congrès a décidé du calendrier pour cette élection. La première étape du processus aura lieu lundi prochain, le 30 janvier. Les élus du Congrès se retrouveront au boulevard Vauban et devront adopter la délibération qui fixe le nombre de membres du gouvernement. Une proposition de délibération a été déposée afin de fixer ce nombre à 11. La deuxième phase se déroulera entre le lundi 30 décembre à l'issue de la séance et le mercredi 1er janvier 2025 à 23h59 au plus tard. Deuxième phase qui consiste au dépôt des listes de candidats. Seuls les groupes politiques peuvent déposer des listes. Troisième et dernière phase, ce sera le mardi 7 janvier 2025 à 9h. avec la séance solennelle d'élection des membres du gouvernement. Les membres élus se retrouveront ensuite pour élire le président et le vice-président de ce qui sera alors le 18e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et après la séance au Congrès d'hier, séance au cours de laquelle le texte modifiant la TGC a été reporté, les loyalistes et le Rassemblement ont écrit au Premier ministre François Bayrou, Lionel Sabot.
Dans ce courrier, les élus signataires rappellent que, et je cite, « le 11 décembre dernier, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie votait la DM6 qui prévoyait d'habiliter le président du gouvernement à signer une convention d'avance avec l'État, une convention qui assurait une aide de l'État de 231,2 millions d'euros, un peu plus de 27 milliards de francs, pour la Nouvelle-Calédonie et ses collectivités. Les élus poursuivent en expliquant au chef du gouvernement que depuis le 11 décembre, le Congrès a voté le jour de carence dans la fonction publique territoriale et adopté le plan d'augmentation de la CCS de manière conforme au terme de la convention, écrivent les signataires. Les loyalistes et le Rassemblement qui reviennent ensuite sur la séance d'hier au Congrès, alors que nous examinions la loi du pays portant réforme de la TGC, l'ensemble des formations politiques indépendantistes a décidé de ne plus siéger suite à la chute du 17e gouvernement, écrivent les 9 signataires de ce courrier qui lancent un appel solennel au Premier ministre. Nous vous sollicitons solennellement pour que l'État accorde à la Nouvelle-Calédonie et ses habitants l'aide financière indispensable à leur sauvetage. Les élus qui poursuivent ainsi, et je cite, « à défaut, l'État n'aura pas d'autre choix que de mettre la grande majorité des collectivités calédoniennes sous tutelle. C'est une sollicitation de la plus grande urgence que nous vous adressons aujourd'hui », écrivent encore Sonia Baquès, Philippe Blaise, Gilles Briel, Isabelle Chamboreau, Christopher Gigès, Nicolas Metzdorf, Alcide Ponga, Virginie Rufnec et François Suvé.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. On va commencer par la réponse à la question d'hier. Et 43% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent dans le contexte actuel qu'il était opportun de faire tomber le gouvernement. Mais ils sont 57% à penser que ce n'était pas opportun. Voici notre question du jour. Faut-il sanctionner plus durement les élus qui tiennent des propos outranciers dans leurs assemblées respectives? Si vous pensez qu'il faut les sanctionner plus durement, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. 11h38, une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie et notamment l'agence rurale qui suspend ses aides à l'agriculture et à la pêche. Explication dans un instant.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Psst, et toi, tu sais comment on reconnaît le goût d'un bon café en Calédonie?
Ça commence par... Après ça fait... Ensuite ça fait... Et là...
Tu connais?
Eh oui, c'est la boîte Nescafé. Un café au goût unique, riche et intense. La boîte Nescafé, le vrai goût calédonien.
Cette année, votre champ Kéféri vous fait le plus beau des cadeaux. On vous simplifie les fêtes. Plateau de fruits de mer, foie gras maison, menu gourmand de l'apéritif au dessert, plateau de charcuterie, fromage et de délicieuses préparations bouchères, nos équipes mettent leur savoir-faire à votre disposition. Passez commande au 24 30 60 ou directement dans votre champ Kéféri.
La semaine dernière, j'ai encore passé 3 jours à courir après mes factures impayées.
Attends, mais avec ce Blue, c'est automatique. Tu cliques sur relancer tes factures et paf, toutes les relances partent direct par mail à tes clients. Et si tu veux que certaines ne soient pas envoyées, tu les enlèves facilement.
Sérieux?
Et c'est aussi simple pour gérer tes stocks, créer des devis, gérer ta caisse. Je te parle même pas des exports comptables.
Mais non, faut appeler qui pour une démo?
Va sur soblue.nc, S-O-B-L-O-O. Et fais gaffe, tu pourras plus t'en passer.
Soblue.nc, ok, j'arrive.
Soblue, la solution locale qui révolutionne votre gestion commerciale.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'agence rurale suspend ses aides à l'agriculture et à la pêche, une annonce qui a été faite par communiqué. Le président de l'agence rurale a également adressé hier un courrier à ses partenaires pour expliquer la situation, Nicolas Legrand.
Oui, et il met en avant la situation budgétaire de l'agence face aux difficultés de cette année. La Nouvelle-Calédonie n'a versé jusque-là qu'un milliard sur les 3,6 milliards de taxes qui auraient dû être affectées à l'agence rurale, conformément au budget qui avait été voté en début d'année. En clair, il s'agit de la taxe sur les produits alimentaires, la TSPA, et la TCA, la taxe sur les contrats d'assurance, qui vient là indemniser les calamités agricoles. Une situation qui a donc considérablement affecté le fonds de roulement de l'agence rurale que préside Victor Tutugoro.
La Nouvelle-Calédonie n'ayant versé qu'un milliard, nous avons dû fonctionner sur les réserves de l'agence rurale. Fin d'année 2024, la Nouvelle-Calédonie n'a toujours pas versé les 2,6 milliards que nous attendions. Il a versé 1 milliard, mais il n'a pas versé le complément, les 2,6 milliards. Nous sommes donc fin 2024 et devant les incertitudes du budget 2025. On ne sait toujours pas aujourd'hui quelles seront les recettes 2025. Et pour ne pas mettre en péril les opérations en cours 2024, mais en même temps la réserve pour le fonctionnement de l'agence, voilà, nous avons décidé donc, à partir du 1er janvier 2025, de ne plus payer les nouvelles opérations en 2025.
Et cette suspension des aides au 1er janvier est une manière d'alerter sur la situation. L'agence rurale attend maintenant de la visibilité pour relancer son fonctionnement.
Nous n'avons pas le choix. Le conseil d'administration n'a pas le choix. Nous sommes conscients que ça va pénaliser un certain nombre de productions et de filières. Néanmoins, nous avons préféré à l'annoncer assez tôt pour que les responsables et les agriculteurs sur le terrain puisse s'organiser. Quand il y aura un retour, comme on dit, à meilleure fortune, quand les choses seront plus claires, à ce moment-là, on réexaminera la situation. Mais au jour d'aujourd'hui, dans l'incertitude dans laquelle on est plongé, on est obligé de suspendre les choses pour le moment.
Et du côté des réactions, Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, estime que les conséquences de cette décision sont nombreuses.
L'impact est multiple parce que c'est qu'une partie des revenus des agriculteurs provient des dispositifs de l'agence rurale et aussi le maintien de certaines filières qui sont comme la filière porcine par exemple ou la filière bovine ou d'autres encore dont l'équilibre est basé sur ces versements d'aide. Donc on a quand même de gros soucis à se faire pour les semaines, les mois et les années à venir. Ce qui nous perturbe le plus, c'est le fait que ce secteur d'activité, comme les autres, l'économie de manière générale, ne fait pas partie des plans de mesures et de relance actuellement des finances publiques. On considère que le choix qui est fait par les collectivités de maintenir les coûts de fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie sans faire d'efforts est dangereux parce que c'est l'économie qui en pâtit, c'est l'économie qui crée l'emploi, c'est l'économie qui crée la valeur pour le pays et l'agriculture, la pêche, c'est l'alimentation des Calédoniens. Donc pour nous, ces 3 milliards qui sont enlevés à l'agriculture et à la pêche, on trouve que c'est très très dangereux.
La Chambre d'agriculture et de la pêche avait demandé un rendez-vous au Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour évoquer les difficultés des filières liées à l'agriculture et à la pêche avant même cette décision de l'agence rurale. Cette réunion avec les élus du Congrès pourrait avoir lieu en janvier.
C'est le président de l'autorité de la concurrence, Stéphane Rotterer, qui était notre invité ce matin à 7h30. Avec lui, nous avons notamment évoqué les sanctions prises à l'encontre des sociétés Ericsson et Intelia pour pratiques anticoncurrentielles. Ericsson, la société suédoise, a écopé d'une amende de 417 millions de francs et Intelia, société calédonienne, d'une amende de 62 millions. Écoutez Stéphane Rotterer.
C'est un accord qui a été passé entre Ericsson avec Intelia, une société calédonienne. Et donc cet accord exclusif d'importation qui est interdit sur le territoire permet évidemment de cloisonner le marché puisque le client principal qui est l'OPT ne peut pas se fournir directement auprès d'Ericsson. Et puis les concurrents potentiels de la société Intelia ne peuvent pas accéder au marché.
Alors 417 millions pour Ericsson, 62 millions pour Intelia. Ce sont des sommes importantes, pour autant on aurait pu penser que la somme et l'amende soient plus lourdes.
Pourquoi c'est pas beaucoup? Parce que tout simplement la société Ericsson et la société Intelia ont bien fait les choses, reconnaissons-le. Ils ont non contesté les griefs, et puis ils sont allés beaucoup plus loin, ils sont allés jusqu'à des engagements, c'est-à-dire de mettre en conformité leur contrat, de mettre en conformité leurs pratiques. Les sanctions pour les deux entreprises ont été réduites, parfois même divisées peut-être pour Intelia, quasiment par deux et demi.
Oui, nous avons également interrogé le président de l'autorité de la concurrence sur la question des protections de marché, des protections qui doivent être revues, réfléchies et réformées, estime Stéphane Rotterer. Un travail qui ne pourra se faire, dit-il, sans une réelle volonté politique.
Il y a un travail politique à faire, oui, parce qu'il faut une vraie volonté politique, c'est important. Et puis, il y a de la pédagogie, c'est-à-dire concrètement, il ne s'agit pas de casser quoi que ce soit. Il y a certainement des protections de marché qui sont efficaces et qui participent à une politique industrielle, stratégique du territoire et qu'il faut préserver. Mais pour ça, nous, autorité de la concurrence, on s'est borné à proposer un audit sur un an, 10 mois, un an. Pour pouvoir justement faire la part des choses, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et voir ce qu'il faut réformer ou pas. Et ça, ensuite, vous avez raison, c'est une question politique, c'est-à-dire qu'il appartiendra au gouvernement et au Congrès de décider comment on réformera ces réglementations propres à la Nouvelle-Calédonie.
Stéphane Rotterer, le président de l'autorité de la concurrence qui était notre invité ce matin. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Voilà 10 jours qu'un violent séisme a touché le Vanuatu. La France est toujours mobilisée pour aider les sinistrés de l'archipel, Liana Colombo.
12 personnes tuées, des centaines de blessés et des milliers de sinistrés. Voilà le bilan de cette secousse de magnitude 7,3 sur l'échelle de Richter qui s'est produit le 17 décembre dernier près de Port Vila. Dès les premières heures, le Haut-Commissariat de Nouvelle-Calédonie s'est coordonné pour un appui technique et opérationnel via les FANC, les Forces armées de Nouvelle-Calédonie. Un soutien opéré également au travers de la plateforme d'intervention régionale de la Croix-Rouge, la PIROPS. Yvan Grailleul en est son représentant régional ici en Calédonie.
Dès qu'on a été alerté sur le séisme et surtout son ampleur, on a essayé d'être en contact avec nos collègues de la Croix-Rouge du Vanuatu sur place. Les communications au début étaient très compliquées puisqu'il n'y avait plus d'internet et plus de réseau de téléphone. Dès le lendemain, on a pu avoir des informations un peu plus précises sur l'ampleur des dégâts et donc on s'est préparé dès le premier jour à préparer le stock prépositionné ici à Nouméa dans les entrepôts de la délégation territoriale de Nouvelle-Calédonie au cas où on a besoin des acheminés. Après, en pratique, ça s'est traduit par l'acheminement du matériel et des équipements de réponse, ainsi qu'une équipe de 8 personnes arrivées tout en même temps samedi sur Port Vila.
Plusieurs axes d'intervention ont été définis pour mieux répondre aux besoins. Le premier étant la distribution de kits d'urgence pour les familles sinistrées, explique Yvan Grailleul.
Il y a des jerrycans, il y a des kits d'hygiène, des kits pour avoir des abris temporaires quand les personnes dorment dehors dans les premiers temps, et aussi des lampes solaires. Ça, c'est la première partie des activités qui se font en étroite collaboration avec la Croix-Rouge du Vanuatu pour la distribution aux personnes les plus vulnérables. Et dans un deuxième temps, et ce qui fait aussi la force de la PIROPS ici dans la région, c'est l'envoi d'unités de traitement de potabilisation, qui sont des unités de traitement mobiles. On a envoyé 2 unités et on a travaillé conjointement avec la direction de la Sécurité civile et gestion des risques du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, la DSCGR, qui a mis à disposition 1 unité et aussi des personnes formées à l'utilisation de ces équipements. Donc 2 unités de traitement d'eau et 8 personnes sur le terrain depuis samedi.
Au total, 4 250 personnes ont pu bénéficier d'un accès à l'eau et 1 500 personnes, soit 300 familles, ont été destinataires de dons d'urgence. Les besoins sont réévalués chaque jour par les équipes de la PIROPS qui seront sur place au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine. En plus de l'acheminement de matériel, la PIROPS assure un suivi psychologique aux victimes du séisme, mais aussi aux équipes de secours.
Une nouvelle pause dans ce journal. On va se retrouver dans un petit instant maintenant pour évoquer l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Le quartier Alma est désormais ouvert tous les dimanches de 8h à 12h. En plus de vos enseignes favorites comme Decathlon, la Foire Fouille, Célio et bien d'autres, venez profiter d'un marché avec des animations, un manège pour les enfants et des stands divers et variés. Rendez-vous chaque dimanche matin au quartier Alma, votre destination shopping et détente. Quartier Alma, rue de l'Alma, au centre-ville. Plus d'infos sur Facebook.
Vous rêvez d'une nouvelle cuisine? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1 500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole et dans le monde, on retrouve Jean-François Baudin.
Le Premier ministre se rendra à Mayotte dimanche et lundi prochain. François Bayrou sera accompagné par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, la ministre du Logement, Valérie Létard, et le ministre de la Santé, Yannick Noddeur. Pendant ce temps, le nouveau ministre de la Justice occupe lui le terrain, y compris médiatique. Après un déplacement hier dans l'Oise, Gérald Darmanin était l'invité du 20h de TF1, Arthur Delaborde pour Europe 1.
Gérald Darmanin veut s'attaquer à ce qui est à ses yeux le principal problème de la justice, sa lenteur. Il plaide pour une hausse globale des moyens et des procédures moins complexes, mais aussi pour des exécutions de courtes peines beaucoup plus rapides dans des prisons spécifiques.
Il faut sans doute imaginer des centres de détention à taille plus humaine, où on a des gens qui font quelques mois de condamnation et qui le font effectivement.
Plus largement, le nouveau garde des Sceaux promet de faire le ménage dans toutes les prisons.
Si la prison est un QG où on continue son trafic, alors ça n'a aucun sens. D'abord, il y a à imaginer peut-être des opérations place nette dans les prisons, nettoyer. Les gens ne doivent pas avoir de téléphone portable dans les prisons.
Le locataire de la place Vendôme met aussi sur la table une proposition qu'il qualifie de forte face aux féminicides et aux violences sexuelles aggravées.
Je propose que les gardes à vue puissent aller jusqu'à 72 heures. Aujourd'hui, c'est 48 heures. Ça permet de mettre à protection la femme qui a été menacée, violentée, agressée. Ça permet de faire les constatations et ça permet d'interroger plus longuement la personne.
Une mesure pour tirer une première leçon du procès de Dominique Pellico, explique Gérald Darmanin.
Et puis dans une période économique plutôt morose, le nombre de créations d'entreprises en métropole n'a jamais été aussi important qu'en 2024. L'année n'est pas encore terminée, mais à fin novembre, le record avait déjà été atteint. Brieux-Bossu pour Europe 1.
Déjà plus d'un million d'entreprises ont été créées entre janvier et novembre 2024. C'est 60 000 entreprises de plus que sur la même période il y a un an. Le record absolu de 2022 avec 1,1 million va donc être battu, en grande partie grâce à l'enthousiasme des micro-entrepreneurs dont les projets représentent plus de deux tiers des nouvelles entreprises. Une dynamique qui n'est pas freinée par le contexte économique selon François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs.
La morosité peut te inciter à créer, justement pour se préparer, anticiper ou s'affranchir, ou commencer à s'affranchir de la subordination en fait, du modèle salarié.
Et plus généralement, cette dynamique est portée par trois secteurs. D'abord les transports, puis l'hébergement et l'industrie. Mais attention, créer une entreprise ne veut pas dire garantir sa viabilité. D'ailleurs, le nombre de faillites atteint lui aussi des sommets. Le nombre de défaillances en 2024 est proche du record de 2009, au plus fort de la crise financière.
Toujours en métropole, mais en bref, un vol avec effraction qui n'est pas passé inaperçu, à Paris. Il a eu lieu au printemps de la place de la Nation. Le malfaiteur qui a agi seul, comme l'ont montré les caméras de vidéosurveillance, est reparti avec un butin estimé à 300 000 euros, c'est-à-dire 36 millions de francs. Et puis la pratique de la montagne reste dangereuse en hiver si l'on ne respecte pas les règles de sécurité. Aux Arcs, en Savoie, un jeune de 13 ans est mort, emporté par une avalanche. Il n'avait pas de matériel de détection alors qu'il skiait hors piste. Philippe Janin est le directeur des pistes de la station.
Une avalanche s'est déclenchée sur le haut de la station, sur le secteur hors-piste de l'Aiguille Rouge. Quelques personnes ont été emportées, une famille qui évoluait sur un secteur hors-piste. Une personne a été ensevelie, cet adolescent qui est décédé malheureusement. Moi je pense à cette famille qui est venue en vacances, qui vient aux Arcs depuis a priori très longtemps. C'est dramatique pour eux surtout. Un message de prudence, il y a trois jours en arrière maintenant, on était en risque d'avalanche 4, un risque fort. Hier on est passé en risque 3, donc toujours rappeler ce message de prévention, bien rester sur les pistes balisées. Et puis si on veut sortir hors piste, il faut impérativement être équipé et ou alors se faire accompagner d'un professionnel. Les professionnels connaissent les endroits et ont une meilleure lecture peut-être du manteau neigeux et seront vraiment vous guider sur ces endroits-là.
Philippe Janin, le directeur des pistes de la station des Arcs en Savoie. L'actualité à l'étranger avec des tensions persistantes en Syrie. Cela fait 14 jours que Bachar el-Assad a été chassé du pouvoir par les islamistes. Ces derniers multiplient les gestes d'ouverture, mais on assiste aussi à des règlements de comptes, notamment entre forces rebelles et minorités religieuses. Fabrice Balanche est un spécialiste de la Syrie.
L'ambiance en Syrie est un peu au règlement de compte. Hayat al-Jasham, les combattants, les autres factions islamistes cherchent à se venger de l'ancien régime. Ils voient évidemment les minorités, en premier lieu les alaouites. Donc évidemment, les alaouites aussi se défendent. Ce qui est en jeu pour les minorités comme les alaouites, les chrétiens, les druzes, c'est leur existence même.
Rappelons que Bachar el-Assad a fui son pays et qu'il a trouvé refuge en Russie. En bref, Moscou nie toute implication dans le crash d'un avion de ligne commerciale azerbaïdjanais qui effectuait la liaison Bakou-Grozny. 38 personnes ont péri dans l'accident. Les experts qui ont pu voir les images des débris affirment avec une quasi-certitude que l'avion a été touché par un missile. Et puis il y a 20 ans, le 26 décembre 2004, un tremblement de terre de 9,1 sur l'échelle de Richter provoquait un tsunami meurtrier en Thaïlande et 12 autres pays de la région. C'était d'ailleurs hier une journée du souvenir dans ces 13 pays. Le drame avait causé la mort de 220 000 personnes. Des millions de blessés et de sans-abri avaient été enregistrés. Et depuis cette catastrophe, de nombreux pays se sont équipés de centres de détection spécifiques. Il y en a un en France. Louise Salé s'y est rendue pour Europe 1.
L'alerte résonne dans la salle où se relaient des opérateurs 24 heures sur 24 et sur l'immense planisphère projeté au mur, un point de couleur se met à clignoter. Pascal Roudil, sismologue responsable du centre.
Ça indique donc qu'il y a un fort tremblement de terre qui pourrait éventuellement générer un tsunami et donc dans ce cas-là, nos opérateurs de permanence assurent le traitement de l'événement, sa caractérisation et en fonction des résultats, on diffuse auprès des autorités françaises, donc c'est la sécurité civile, qui est chargée d'assurer l'alerte descendante vers les autorités locales, que sont donc les préfectures et les mairies.
En 15 minutes, l'alerte est donc transmise pour évacuer la population. Depuis 2012, le centre n'a détecté en France que des vagues de quelques centimètres qui n'ont fait aucun dégât.
La partie méditerranéenne est plus exposée au risque de tsunami parce que nous avons des zones tectoniques actives sur les côtes françaises. On peut estimer qu'au maximum, on aura des vagues peut-être de 3 mètres. En revanche, il y a un courant notable, 40 km/h, peut-être 50 km/h, au niveau des côtes qui arrivent, on peut avoir des conséquences assez importantes. Et certaines villes, dont la ville de Cannes par exemple, a édifié des systèmes de prévention, des systèmes de formation de la population pour pouvoir réagir rapidement.
Dans le monde, 12 centres comme celui-ci surveillent en permanence les côtes coordonnées par l'UNESCO. En 2004, il n'en existait qu'un seul situé dans le Pacifique.
Il est 11h56, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, ce sera l'actualité sportive avec de la voile et malheureusement une course Sydney au Barthe déjà endeuillée par la mort de deux marins.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Attention, important. La ville de Nouméa a dû procéder à un toilettage des listes électorales face à de nombreuses adresses de domicile incorrectes. Certains d'entre vous ont pu être radiés. Vous devez vérifier votre inscription sur le site www.electeur-nc.fr. Si tel était le cas, vous devez procéder à votre réinscription, soit à l'hôtel de ville, soit par Internet sur le site www.nouméa.nc, soit par courriel à l'adresse suivante vie.citoyenne@ville-nouméa.nc. Important, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour vous réinscrire. N'attendez pas le dernier moment. Pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits, vous devez aussi le faire avant le 31 décembre 2024. Pour tout renseignement, appelez la mairie de Nouméa au 27 31 15.
Pour vos fêtes de fin d'année, votre magasin Hyper Upaïta vous accueille avec des horaires exceptionnels.
Vendredi 27 et samedi 28 décembre de 8h à 21h. Dimanche 29 décembre toute la journée de 8h à 20h. Lundi 30 décembre de 8h à 21h. Et mardi 31 décembre de 8h à 18h. Et profitez de nos prix bas dans notre catalogue festif pour illuminer vos fêtes.
Toute l'équipe de votre magasin vous souhaite de joyeuses fêtes.
Hyper U, sortie Païta Centre. Suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook Hyper U Païta NC.
Hyper U, la qualité de notre métier, le prix, notre priorité.
U, commerçant, autrement.
Le BNC Tennis Open arrive du 29 décembre au 4 janvier à la Ligue de Tennis au Wentoro. Venez assister à l'événement tennis de l'année avec plus de 50 joueurs internationaux surmotivés pour succéder à Arthur Cazaux. Que vous soyez fan de tennis ou simplement à la recherche d'une expérience unique, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable. En journée ou en soirée, vivez l'intensité du BNC Tennis Open dans une ambiance exceptionnelle. Qui remportera la 20e édition? Venez le découvrir à l'occasion du BNC Tennis Open du 29 décembre au 4 janvier au Wentoro. Infos et billets sur www.bnctennisopen.com.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et on va commencer par l'actualité de la voile. Cette année encore, les conditions de navigation sur la Sydney au Barthe sont rudes et malheureusement, la course a été endeuillée. Deux marins sont morts dans deux accidents différents. Les explications de Jean-Pierre Zajac.
Les deux marins sont morts à quelques heures d'intervalle après avoir été heurtés à la tête par une baume. Le premier était membre d'équipage du voilier Flying Fish Arctos et le second était embarqué à bord du Bowline. C'est une terrible tragédie, a déclaré le commodore du Cruising Yacht Club Australia, David Jacobs. Un équipier du Porco Rosso a quant à lui été repêché sain et sauf après être tombé à l'eau et avoir dérivé en mer sur plus d'un mille nautiques. Quatre fois vainqueur de la course et détenteur du record de la traversée Sydney-Hobart en un jour, 9 heures, 15 minutes et 24 secondes, le Maxi Comanche, qui était alors en tête, a quant à lui été contraint à l'abandon après avoir endommagé sa grand voile, ce qui a laissé le champ libre au vainqueur de l'an dernier, Low Connect. À Sydney, Jean-Pierre Tajac, RRB.
Et pour l'instant, tout va bien à bord du bateau calédonien Poulpito, engagé sur cette 79e édition de la Sydney Hobart. Le bateau calédonien est 49e au classement général et 5e de sa catégorie. On va rester sur l'eau, Lionel, avec la suite du Vendée Globe. Nous sommes en effet au 46e jour de course.
Et c'est de nouveau très serré en tête de la flotte, puisque Johan Richomme et Charlie Dalin sont de nouveau au coude à coude au large de l'Argentine. Johan Richomme sur Paprec Parkia. Elle n'a plus qu'une douzaine de kilomètres d'avance sur Charlie Dalin, sur Massif Santé Prévoyance. À la troisième place, mais bien plus au sud, on trouve Sébastien Simon sur Groupe Dubreuil. Sébastien Simon qui tire des bords depuis quelques heures tout près des îles Malouines. Ils sont seulement trois à avoir commencé la remontée de l'Atlantique. Thomas Ruyant sur Vulnérable devrait être le prochain skipper à franchir le mythique Cap Horn d'ici quelques heures. Et puis notez que le tout dernier de la flotte, il s'appelle Dennis Van Venberg. Il a franchi il y a quelques heures le cap Lewin, c'est tout à l'ouest de l'Australie. C'est le cap qui marque en fait l'entrée dans l'océan Pacifique. Dennis Van Venberg qui compte plus de 13 000 km de retard sur le leader.
On va terminer avec du football et pas de trêve des confiseurs dans le championnat d'Angleterre. On jouait ce matin le début de la 18e journée de Première Ligue.
Et Liverpool, le leader qui continue de cartonner. Liverpool qui s'est imposé ce matin 3-1 sur Leicester. Les autres résultats, Manchester City et Everton ont fait match nul un but partout. Victoire de Fulham 2-1 sur la pelouse de Chelsea. Nottingham Forest s'est imposé 1-0 sur Tottenham. Match nul 0-0 entre Bournemouth et Crystal Palace. Newcastle s'est imposé 3-0 sur Aston Villa. Victoire de West Ham 1-0 sur la pelouse de Southampton. Et puis Wolverhampton s'est imposé à domicile 2-0 face à Manchester United. Demain, deux matchs à suivre. Brighton, Brentford et Arsenal Ipswich. Au classement, Liverpool caracole en tête. Les Reds qui ont un match de retard ont 7 points d'avance sur Chelsea. Nottingham Forest et troisième, Arsenal quatrième.
Et il est midi et deux minutes, c'est la fin de ce journal. La suite d'Infomag, c'est évidemment avec Thierry jusqu'à 13h. Je vous souhaite une belle après-midi.
L'actualité ne s'arrête jamais sur rrb.nc.